Vous êtes avec SBS French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Olivia Sayas, bienvenue et merci.
Merci à vous.
Vous avez dit quelque chose qui m'a frappée. Le film que j'ai écrit est celui qu'on a fait. En d'autres termes, la différence qu'il y avait entre le mot et les paroles parlées.
Disons que je crois que c'est souvent comme ça, mais c'est un processus quand même particulier au cinéma, puisqu'il y a à la fois de l'écriture et de l'incarnation. Hein. C'est-à-dire que quand on écrit, on imagine des choses, on voit des choses, on interpose, admettons, à notre imagination des images qu'on a vécues, observées, rêvées, etc. Et puis, quand il s'agit de filmer ces choses-là, il y a le réel, quoi. Il y a la réalité, il y a le monde. Donc ça veut dire que pour moi, un scénario, c'est un point de départ. On commence par là, on commence avec ce qu'on a imaginé, et puis le contact avec le monde nous permet d'aller en fait beaucoup plus loin, et puis surtout d'enrichir l'histoire, d'enrichir de l'expérience de nos collaborateurs, de celle au premier titre des comédiens.
Donc, on dit d'ailleurs que vous êtes un réalisateur de comédiens, parce que les comédiens travaillent avec vous.
Pour moi, le cinéma, c'est le travail avec les comédiens. Disons que je suis quelqu'un qui m'intéresse à la forme, aux images, etc. Mais enfin, la chose qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Et quand on raconte une histoire, il y a la vérité. C'est la vérité humaine qui est celle qui est exprimée par les acteurs qui prennent en charge votre histoire, qui prennent en charge vos personnages. Donc, c'est vrai que moi, je suis très attaché. Et quand je fais mes films, je me sens extrêmement proche d'eux.
Mais vous aviez une très, très belle distribution.
Là, j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir tourner avec des comédiens, littéralement, enfin, non pas exactement pour qui c'était écrit, parce que ça, je l'ai pas écrit en pensant à des comédiens, mais enfin, en tout cas, ceux qui correspondaient à mon premier choix. Enfin, pour moi, j'avais envie de travailler avec Edith Scobb, j'avais envie de travailler avec Juliette Binoche, Charles Berling, Jérémy, tout ça, disons que d'une certaine façon, la distribution des films s'est mise en place de façon complètement naturelle, et selon une logique interne, et il n'y a pas eu de, je sais pas, souvent, on a des soucis, quoi, des fois, des comédiens sont pas disponibles, ou des choses comme ça. Là, ça s'est passé de façon extrêmement organique, quoi. Les choses se sont articulées les unes avec les autres naturellement.
Mais on a l'impression d'une tranche de vie. C'est très naturel, leur interaction.
Oui, moi je répète pas du tout. Donc ça veut dire que j'ai pas construit ça par un processus justement de répétition, mais plutôt d'abord j'ai eu envie que ce soit des comédiens qui se connaissent et qui s'apprécient, qui est le cas spécifiquement entre Juliette Binoche et Charles Berling, qui sont proches dans la vie. Puis je les ai quand même un peu comme je les encourageais à ajouter des touches, à improviser des phrases. Ils se retrouvaient ensemble dans un travail qui était un travail collectif. C'est-à-dire que ce n'était pas tellement des personnages isolés, je veux dire même Juliette Binoche, elle s'est vraiment prêtée au jeu, quoi, parce qu'elle a un rôle où elle doit se fondre dans un ensemble. Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle un film choral, parce que je ne pense pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, je crois qu'en fait, l'heure d'été, c'est plus un film où il y a un personnage collectif qui est la famille, et où une partie du travail pour le comédien, c'est de trouver sa propre voix, mais une autre partie, c'est d'arriver à trouver une façon de se combiner dans une dynamique commune avec les autres protagonistes.
Mais ils sont tous au diapason. On a véritablement l'impression d'une vraie famille.
J'avais très envie de ça, mais enfin, ça me semblait extrêmement difficile. Je dois dire que j'avais beaucoup le trac avant d'aborder ce
Il y avait quand même un travail d'alchimiste que vous avez accompli. Une chose que je vois dans les personnages, c'est vraiment trois groupes de personnages. Il y a d'abord les personnages en eux-mêmes, et puis il y a les thèmes qu'ils colportent, mais il y a la maison. La maison est aussi un personnage.
La maison, je pense que j'aurais pas fait ce film si j'avais pas trouvé cette maison. Enfin, si on l'avait pas trouvé. C'est un lieu où, ce qui m'importait évidemment, de la façon dont le film est aussi un peu une réflexion autour de choses qui ont trait à l'art, j'avais envie que ce soit une maison d'artiste, enfin que ce soit une maison où ait lieu justement l'alchimie dont vous parliez entre la nature, le vivant et un artiste. Et je voulais un livre qui exprime cela. Et quand on a visité d'abord, je le ressentais pas parce que c'était la plupart du temps des maisons beaucoup trop bourgeoises. Et là, il y avait quelque chose qui était spécifique à cette maison-là, qui ramenait à la période de l'impressionnisme. C'est une qui date de cette période-là, dans une région qui a été, comment dire, parcourue par les peintres de cette génération, et où on sent la rencontre entre l'humain, le vivant et la nature. On voit comment tout est imbriqué, comment le jardin, l'atelier et les objets qui peuplent la maison sont une seule et même chose.
Et ils s'articulent les uns les autres. Mais d'ailleurs, votre film, et on va revenir au thème du film, mais votre film, c'est aussi une réflexion sur l'art, parce que l'art en tant que collection de famille, l'art inspiré par la nature, l'art créé par des humains, et puis l'art, les œuvres, une fois qu'elles se trouvent dans le musée, elles sont privées justement de ce lien organique.
Disons qu'en tout cas, elle passe du monde des vivants au monde des morts. Hein. Les musées, de toute façon, sont séparés le monde des morts, puisque on y trouve des visages, des paysages qui ont disparu, représentés par des artistes qui ont eux-mêmes disparu. Donc, quelle que soit la façon dont on envisage ce que c'est qu'un musée, le musée a ce lien intime avec la mort. Et donc, effectivement, lorsqu'un objet y pénètre, il change de nature, il y a une transmutation qui a lieu. Et en même temps, cette transmutation, c'est son entrée dans ce qu'on appelle l'histoire de l'art. Il prend sa place très modeste ou plus importante dans une sorte de continuité qui est celle de l'histoire de l'art. Puis avec ce que ça implique aussi de définition
de sa
valeur marchande, de distance et de définition de sa valeur marchande. Quoi. Donc tout d'un coup, c'est tout ce à quoi il avait échappé jusque-là, c'est-à-dire le commerce et la mort qui induisent du coup sa nouvelle nature. Quoi. Voilà. Et c'est... Alors après, il y a quelque chose évidemment de l'invisible, de la beauté qu'un artiste a su y mettre, qui demeure intact. Mais le rapport immédiat avec le vivant est perdu, bien sûr.
Oui, et ça, on le sent avec cette dernière visite au musée d'Orsay, d'ailleurs. C'est un clin d'œil au musée d'Orsay. Et c'est une magnifique visite guidée au musée d'Orsay qui vous a prêté des œuvres, d'ailleurs.
Le musée d'Orsay, disons qu'ils ont été extrêmement généreux avec nous. Ils ont facilité le tournage dans leur lieu. Admettons qu'on a pu le faire ou qui entrait dans le cadre de notre budget du film, alors que dans un autre contexte, ça aurait été inabordable. Mais de la même manière, ils ont fait pour nous des choses qu'ils font jamais. Par exemple, autoriser la sortie d'œuvres. Le bureau de Majorelle, la vitrine de Majorelle, et quelques autres pièces sont des pièces du musée. Et donc, ils ont autorisé la sortie. Ça impliquait d'avoir avec nous...
Oui, une certaine logistique quand même. Oui.
Mais enfin, ce sont des choses qu'ils ne font jamais. Hein. C'était vraiment, on peut dire...
Une très belle coopération.
Grandement aidé. Quoi.
Mais de toute façon, je crois que ça va rehausser aussi la curiosité pour le musée d'Orsay. Donc, je crois qu'ils en profiteront un petit peu. Mais revenons au thème de Heure d'été. Je l'ai vu comme la vie et ses cycles, le temps. J'ai vu comme la mort et les bouleversements, parce qu'une mort change toujours les relations entre les gens. Les choses qui sont enfouies remontent à la surface. Les secrets sont soit dévoilés, soit perdus à jamais. Et puis, c'est la dispersion des racines.
Ben, disons que je le vois aussi comme une sorte d'appel d'air. Enfin, dans le sens où tout d'un coup, c'est pour moi la mort, au-delà de tout ce que vous dites, c'est aussi une absence. C'est un vide qui se crée et le paradoxe et la cruauté du vivant, c'est que la question se pose aussitôt de comment ce vide va être rempli et de qu'est-ce qui va se substituer à lui. C'est aussi bien du point de vue matériel que d'un point de vue même plus abstrait. Et donc, j'avais fait un film il y a longtemps maintenant qui s'appelait fin ou début septembre, dont le sujet était vraiment le deuil, enfin la disparition d'un écrivain, quoi, et au fond de ce qui restait de lui, quoi, les traces qui restaient de lui, qui disparaissaient au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, j'avais envie plutôt de raconter comment on passe d'une génération à l'autre et comment on passe des valeurs d'une génération aux valeurs d'une autre génération. Et comment les choses qui se transmettent, c'est-à-dire celles qui passent par les différentes strates d'une même famille, se transforment dans ce processus.
Mais dans chacun des personnages, il y a un moment et de vie et de temps, mais aussi une vision différente de l'avenir. Il y a Hélène qui est la gardienne du temple. mais qui est très lucide. Elle dit, mais vous n'avez pas, vous, à continuer ce que moi j'ai fait, parce que vous avez un rôle différent à jouer, vous n'avez pas à être les gardiens de son tombeau. Elle est très lucide de ce point de vue-là. Il y a Frédéric qui, même s'il ne veut pas parler de succession, parce que l'idée de la mort de sa mère le gêne énormément, il est celui qui finalement reprendrait le flambeau s'il en avait la chance. Il y a Adrienne qui a quitté la maison, on ne sait pas pourquoi vraiment. Un début d'explication que donne son frère cadet, Jérémy, qui lui est carrément parti et il a quitté la France. Il y a cette gradation de distance vis-à-vis du passé commun.
Disons que, en tout cas, ils sont tous aux prises avec une chose qui leur est commune, c'est la transformation de la société, hein. C'est la façon dont le monde change, dont le monde évolue, et dont, au fond, ils sont au-delà d'être témoins, ils sont les acteurs, hein. Il y a au sein de cette famille l'écho de la façon dont le monde évolue. Je pense que cette transformation, où admettons que le rapport aux racines, le rapport au passé s'amenuise au profit d'un rapport au présent et une connaissance d'un monde plus vaste, quoi. On voyage plus loin, plus vite, plus longtemps. On est plus facilement au courant de ce qui se passe dans le vaste monde. Et au fond, plus on en est conscient, plus étrangement notre rapport à l'histoire verticale de notre culture s'amoindrit, ou en tout cas est remise en cause sous la forme sous laquelle elle nous a été transmise jusqu'ici. Enfin, j'ai le sentiment d'appartenir à une génération qui a été préservée de se poser la question de son rapport au passé. Elle a été préservée parce que la génération d'avant l'en a protégée. De la même manière, Hélène protège ses enfants de devoir se définir par rapport à leur culture, leur racine, encore une fois, et même leur pays. Mais simplement, elle est elle-même infiniment plus lucide qu'eux quant au monde et au devenir parce qu'elle s'est posée ces questions-là. Adrienne, Frédéric ou Jérémy se les sont posées abstraitement, de façon très rapide, brève, parce qu'ils ont été trop, les uns et les autres, pris dans leur existence, pris dans leur propre vie, leur propre travail, leurs propres amours sans doute, et donc n'ont pas, comme Hélène, eu la nécessité de se définir. Mais simplement, le jour vient où on ne peut plus éluder la question. On est obligé d'y faire face, on est obligé d'y répondre. Une réponse sans savoir si elle est bonne ou mauvaise, mais enfin qui est celle selon laquelle on va se conduire, on va se définir. Et Adrienne, par exemple, je crois, comprend des choses. Frédéric aussi comprend des choses. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport intuitif à leur famille, aux choses qu'Hélène leur transmet. Frédéric, parce que c'est l'aîné, il se considère un peu
responsable
d'une histoire et qu'au fond, que ce qui lui a été transmis, ce sera de son devoir de le transmettre à la génération suivante. Enfin, il est en ce sens un peu d'une autre époque encore. Adrienne, elle, par contre, a absorbé ce monde-là. Elle est artiste, donc elle a vu avec des yeux d'artiste le monde qu'avait créé autour de lui son grand-oncle Paul Berthier. Elle a vu ses objets, elle a baigné dedans et au fond, son art est né de ça. Si elle est artiste aujourd'hui, c'est parce qu'elle a vécu dans ce monde-là et qu'elle l'a intériorisé, donc elle le porte en elle. Et d'une certaine façon, elle a tendance à considérer qu'il n'y a rien à hériter, puisque au fond, elle a déjà tout plié à sa manière. Jérémy, par contre, lui, est pragmatique, comme beaucoup de jeunes gens de son époque. On peut imaginer qu'il a fait une école de commerce, qu'il s'est marié, ses enfants sont nés, son travail l'a porté ailleurs. Et bien voilà, lui, ce qui lui importe, c'est le bien-être des siens, dans un monde qui est très différent, dont même la géographie est différente pour lui. Cette maison de Valmondois représente peu de choses pour lui, mais d'une certaine façon, on peut dire que même la France n'est plus le centre du monde non plus. Le centre du monde, il est là où l'économie a lieu, là où l'histoire se fait, c'est-à-dire dans les sociétés qui sont aujourd'hui en développement, comme encore en Chine, en Inde, là où le monde change.
Mais Jérémy, c'est aussi celui qui était le cadet, donc peut-être moins influencé par la mère, et certainement le plus critique de la mère. Parce qu'il a cette phrase qui est assez acerbe en disant « mais elle n'était pas fière d'être mariée à un commerçant, à un industriel. Elle aurait voulu être mariée à un artiste. » Et dès le lendemain de sa mort, elle a changé son nom. Elle est revenue à son nom de jeune fille. Et il est le seul à dire ça. Et c'est quelque chose qui ne lui pardonne pas.
Oui, oui, disons que peut-être parce qu'il a perdu son père jeune, il est plus attaché à son père. Et il fait revenir cette idée quand même. Enfin, admettons qu'il ramène une dose de réalité pragmatique hein, dans son regard sur sa mère. Il a cette espèce de franchise brutale, ou de la même manière qu'il est relativement indifférent au fait qu'elle ait eu ou n'ait pas eu une aventure avec son oncle. Ça le fait un peu rigoler parce que, au fond, c'est quelqu'un qui s'intéresse qu'aux choses tangibles et que donc il a une vision dont on peut dire qu'elle est à la fois lucide, dont aussi qu'elle est un peu cynique.
Oui, mais mais en même temps, c'est lui qui était presque le plus choqué aux révélations de la mère.
Disons que le plus choqué, c'est Frédéric, parce que Frédéric, lui, refuse d'y croire. Enfin, ça lui est...
Oui, il y a ça.
Autant Frédéric refuse d'y croire, Adrienne, elle...
Ça la libère.
Ça la libère, enfin, dans le sens où elle est obsédée par le désir que ça ait lieu pour pouvoir le dénoncer. Et tandis que, ou en tout cas, ou pour le mettre à jour à sa façon. Et autant Jérémy, au fond, considère que ce n'est pas son histoire. Ça ne
mais...
concerne la moitié.
Celle qui est liée à la maison organiquement et par le passé, par le temps, c'est Héloïse. Et c'est un personnage effacé, un personnage de tâcheron, un personnage qui est constamment dans les coulisses, mais qui est fondamental à cette maison et c'est elle qui est le plus affectée par la mort. Et par le passage du temps.
Parce que c'est son monde, elle n'en a pas d'autre, et elle n'a pas tellement voix au chapitre. C'est-à-dire que Héloïse est attachée à cette famille, elle est attachée à cette maison, elle a tout vu, elle en a vécu toutes les périodes, elle a été partie prenante de tout ça, mais elle est la bonne, donc comme on l'était dans l'ancien temps, elle est d'une autre époque, enfin c'est vraiment la Françoise de Proust. Et quand cette maison va être vendue, quand ce monde va disparaître, parce qu'au fond, c'est pas tellement la maison qui est vendue, c'est un peu le monde de Paul Berthier
qui disparaît.
C'est le monde de Paul Berthier qui se dissout, quoi. Et c'était le seul monde qu'elle ait connu. Mais surtout, ce qui m'importait, c'était dans le rapport aux objets, donc au rapport à l'art, de montrer quelqu'un qui garde un rapport pur, dans le sens où les objets sont là dans cette maison de toute éternité, qui tout d'un coup, du fait de la succession, se trouvent porteurs de valeur, hein, d'une valeur monétaire.
Marchande
et artistique, parce qu'ils rentrent dans l'histoire de l'art, pour Héloïse, ne représentent que qu'ils peuvent avoir d'invisible et de beauté invisible, enfin de beauté naturelle.
Un vase, c'est pour les fleurs.
Un vase.
Et d'ailleurs, elle prend ce vase très précieux
voilà.
pour mettre des fleurs dedans. Et c'est magnifique.
Voilà. Oui, oui, de la même façon qu'elle l'avait toujours fait. C'était le vase qu'elle aimait bien. Personne s'intéressait à ce vase. Elle se fichait de sa valeur, mais elle savait voir sa beauté. Et d'une certaine façon, j'aimais bien l'idée dans le film de raconter ces deux histoires parallèles de ces deux vases. C'est-à-dire l'un qui finit en captivité dans le musée et l'autre qui reste en liberté, à l'état sauvage, disons, dans le petit studio.
Où elle va habiter désormais. Ne sachant pas naturellement qu'elle possède une œuvre très recherchée et très chère. C'est très beau, mais il y a aussi cette tristesse. Je crois qu'il y a toute la gamme des émotions et il y a cette compréhension de la part de l'aîné de la famille qui lui dit « choisis ce que tu veux ». Et ça aussi, c'est une grande générosité. En d'autres termes, il apprécie à ce moment-là que cette partie de sa vie se termine et son monde disparaît et il veut qu'elle emmène un souvenir.
Ah oui, oui, qu'elle reste dépositaire de quelque chose, voilà, qu'elle reste dépositaire de quelque chose. Et en même temps, quand elle choisit le vase, il a un petit sourire parce qu'il vient d'assister à la scène où l'expert
a
dévoilé la valeur de cette œuvre. Et au fond, il le considère comme une sorte de pied de nez à ses frères et
oui,
sœurs.
Oui, absolument.
Et au dessin.
C'est son moment d'ironie.
Voilà.
Non, mais ça, c'est très beau. Mais c'est là, encore une fois, ce film, c'est une tapisserie. Mais c'est une tapisserie en ton très, très nuancé. Il y a beaucoup de non-dits, il y a des regards, il y a des pénombres, il y a des contre-jours. Vaguement, on entend une conversation. Il y a toute une sorte de texture tout à fait naturelle de la vie de tous les jours, en quelque sorte, mais dans une situation, dans ce cas, qui est à un moment particulier de la vie de la tribu.
Oui, et puis je crois que le travail sur les nuances, sur le détail, s'est imposé à moi presque naturellement parce que quand je raconte une histoire comme celle-là, j'ai besoin d'être avec tout le monde simultanément. J'ai besoin que chacun, au moment où il parle, soit sinon au porte-parole, en tout cas j'ai besoin d'adhérer pleinement à ce qu'il est en train de dire, enfin en tout cas de comprendre parfaitement les nuances justement de son raisonnement et qu'au fond, même s'il y a des personnages et certains des réflexes dont je me sens plus proche. C'est pour moi, c'était vital que chacun ait droit à ses raisons, ait droit à ma compréhension et j'espère aussi à celle du spectateur.
Mais en même temps, on a cette impression de naturel. Et ce film nous renvoie à notre famille. Et on se rend compte que Frédéric, en dépit de son incroyable envie que tout continue, doit accepter, il l'accepte de très bonne grâce, mais avec beaucoup de nostalgie en lui-même, que c'est différent pour ses frères et sœurs et que c'est la décision commune qui va prédominer et il doit s'adapter, il l'accepte, avec une pointe de tristesse, mais il accepte l'inévitable. Et
bah,
Frédéric, il est le fil conducteur.
Oui, bien sûr, mais il accepte surtout que le monde change. Il accepte au fond que les valeurs, admettons, dans lesquelles il a été élevées, qui sont des valeurs anciennes, d'un autre monde, et qu'elles ne peuvent pas s'imposer avec l'évidence ou la nécessité absolue qui est celle qu'on lui a enseignée et dont il a toujours été convaincu. Il apprend comment le monde a changé et comment, au fond, ce monde est déterminé par des valeurs qui sont...
Pas très élevées, finalement.
Oui, mais enfin, lui n'a pas pris sur elle, quoi, voilà. C'est-à-dire que c'est la société qui a changé. Et que ses frères et sœurs, lui-même, sont déterminés par des transformations qu'il dépasse, qui sont l'histoire, enfin, l'histoire contemporaine, l'histoire moderne. Et même s'ils sont en désaccord avec la façon dont le monde change, même s'ils préféreraient que le monde soit autrement, il y a quelque chose d'inéluctable. Et je crois que Frédéric finit par trouver sa place dans l'inéluctable.
Mais en même temps, il a eu aussi une bonne leçon de réalisme avec les frasques de sa fille.
Disons que sa fille, les adolescents font des bêtises, et surtout rendu compte qu'elle avait grandi.
Voilà.
Parce que là, il voyait une petite fille, et puis tout d'un coup, il y a une sorte de réveil matin.
C'est une jeune femme.
qui lui signale que c'est une jeune femme. Mais d'une certaine façon, c'est la même chose pour le spectateur. C'est-à-dire
absolument.
Le spectateur, jusque-là, pense qu'elle appartient au monde de l'enfance. Et puis elle va tout d'un coup dire, non. Et il commence à se dire, peut-être qu'elle pense quelque chose, elle, de ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'elle aussi a un point de vue. Et on va pas tarder à le découvrir, effectivement.
C'est le mot de la fin, d'ailleurs, elle dit, parce que ma grand-mère est morte et la maison est vendue. Et elle a le dernier mot de la nostalgie.
Oui,
en ayant l'avenir devant elle.
Bien sûr, mais parce qu'en fait, évidemment, elle est très jeune et elle n'a pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressent, mais elle est parfaitement lucide, elle voit très bien ce qui a lieu, et puis d'une certaine façon, elle est même celle qui est la plus lucide, parce que elle sait que ce qui est perdu, encore une fois, c'est pas tellement les objets, c'est pas tellement les murs, c'est pas tellement les tableaux, au fond, c'est plutôt les fantômes, quoi. C'est
l'âme, les âmes successives qui ont habité cette maison, et qui sont là, probablement, encore.
Voilà. Les lieux qui ont été, peints par son grand-oncle, Paul Berthier, et surtout les fantômes. Et à la fin, elle les voit apparaître, ces fantômes. C'est-à-dire, quand elle est dans le pré avec son petit ami, elle voit sa grand-mère avec Paul Berthier. Elle voit ce cerisier qui a été peint par lui dans un tableau qu'elle a dû entrevoir enfant. Et elle a ce sens, encore une fois, de ce monde invisible qui est la chose la plus précieuse, qui est la perte la plus cruelle. Il n'y a qu'elle qui sache le dire.
Mais c'est là où je pense, Olivia Sayas, que vous avez fait un film qui est à la fois tendre, légèrement amer par moments, qui nous force à réfléchir, qui nous renvoie aussi à notre image de nous-mêmes, de la famille, du temps, de la vie, de la mort, du passé, du présent, et comment nous aussi on accepte ou n'acceptons pas les changements.
En racontant cette histoire, j'avais le sentiment de toucher à quelque chose qui est universel, enfin dans le sens où nous avons chacun notre expérience de tout ça. Et donc c'est un film dont les creux, dont les ellipses sont faits pour être remplis par le vécu de chacun et de façon à ce qu'à chacun puisse se l'approprier à sa façon, le faire résonner avec sa propre histoire. Que d'une certaine façon, c'est un film qui est fait de sensations et ces sensations, elles sont faites peut-être pour compléter ou expliciter celles que chacun a en lui naturellement devant ces événements-là.
Mais ça m'a aussi rappelé le dimanche à la campagne, par les tableaux, parce qu'il y avait, quand on voyait la famille, quand on voyait ces petites contrariétés, quand on voyait ces nuances, etc., ces regards, des phrases qui n'étaient pas achevées, des petites interrogations, des petites irritations, j'avais l'impression de voir dimanche à la campagne avec une nostalgie légère.
Moi, je crois que c'était surtout la cerisée, enfin, c'est-à-dire dans le sens où
donc il y a la frustration aussi des personnages.
Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'universel dans ce thème. Il y a un très beau film aussi de Roger Lénard qui s'appelle Les Dernières Vacances, qui racontait aussi cette disparition d'une maison. Je crois que c'est un thème archétypal, mais qu'au fond, chacun d'entre nous peut raconter à sa manière, habité par ses propres
fantômes et ses propres souvenirs.
Ouais, ses propres fantômes, oui, ses propres souvenirs.
Olivia Sayas, vous travaillez sur un nouveau film maintenant?
Oui, là, je suis en plein tournage. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que j'y retourne.
Je vais vous libérer. Vous pouvez nous en dire quelques mots ou c'est un secret?
Non, c'est pas secret, mais enfin, disons que c'est très différent de... En fait, c'est l'histoire de Carlos. Enfin, c'est un film donc sur le terrorisme.
Ah oui? Alors là, vraiment à l'autre bout du spectrum.
Voilà. Oui, oui.
Donc vous passez d'un genre à l'autre?
Oui, oui, là, assez radicalement. Enfin bon, ça s'est trouvé comme ça, c'est un peu un hasard, mais c'est extrêmement passionnant. Et puis c'est un projet très complexe, lourd. C'est un tournage qui va mener jusqu'à l'été, donc c'est une vaste entreprise.
Vaste entreprise. Une bonne continuation, Olivia Sayas, et merci.
Bah, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.